Vous écoutez l'ambition au féminin, épisode 156, et aujourd'hui, on va parler de ces émotions négatives ou mal aimées qu'on doit apprendre à gérer pour atteindre notre prochain palier de croissance. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, bienvenue dans cette deuxième partie de deux d'un épisode qu'on avait entamé la semaine passée où on parlait de régularisation du système nerveux comme entrepreneur. Je vous encourage à aller écouter cet épisode si c'est pas encore fait. C'est la mise à table, dans le fond, de ce qu'on va discuter aujourd'hui au niveau de ces émotions négatives ou mal aimées qu'on ressent souvent comme entrepreneur et qu'on essaye bien souvent d'éviter, mais qui sont des signes, justement, qu'on est en période de croissance ou qu'on peut se diriger vers la croissance. Donc, je ne vais pas faire un retour sur tout ce qu'on a discuté au niveau de qu'est-ce que ça veut dire exactement régulariser son système nerveux, sinon que je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ce que ça veut dire réellement et surtout d'incompréhension sur comment on veut vivre cette régularisation comme entrepreneur. Aujourd'hui, donc, je ne savais pas si appeler ça des émotions ou des sensations, parce qu'à quelque part, une émotion, c'est quelque chose qu'on vit dans notre corps. Hein. C'est quelque chose qui est temporel, donc qui a un début et une fin. C'est quelque chose qui est initié par une pensée ou par une circonstance. En fait, la circonstance va créer une pensée et la pensée va créer une émotion qui ensuite va nous amener à créer certaines actions et certains résultats. Donc, c'est important de réaliser aussi qu'une émotion ou une émotion est une sensation et que cette sensation en soi, elle a un début et une fin. Par contre, ce qui arrive, c'est que souvent, on va essayer d'éviter ces sensations parce qu'on les trouve inconfortables, parce qu'elles nous rappellent des mauvaises choses. Et là, on rentre dans une spirale dans laquelle une émotion va générer une autre pensée qui va générer d'autres émotions négatives, qui va générer tout un tas, un effet domino de problématiques, puis on veut pas rentrer dans cette spirale-là. Donc, des fois, on va prendre des décisions dans notre entreprise, parfois même inconsciemment, pour essayer de contourner ou d'éviter de vivre ces émotions-là. Et là, ce que je veux discuter aujourd'hui, c'est que, dans le fond, quand on fait ça, quand on s'en va dans cette direction-là, on s'empêche de sortir de nos réactions traumatiques. On s'empêche de sortir de cette répétition traumatique à travers laquelle on fait des choix différents par rapport à certaines émotions, qu'on est capable de justement accéder à une certaine maturité émotionnelle en apprenant comment processer ces émotions ou vivre ces émotions. Et c'est là que le coaching devient quand même assez important, un outil quand même assez important pour augmenter notre capacité à ressentir ce range d'émotions qui, pour plusieurs personnes, vont être les limites de ce qu'ils veulent expérimenter dans leur business. Donc, quand on ne s'autorise pas de l'espace pour vivre ces émotions-là, on met des limitations sur notre capacité à croître dans notre entreprise et à expérimenter des résultats différents, y compris des bons résultats, hein, parce qu'avec plus on se dirige vers des bons résultats, plus on court le risque aussi d'avoir des mauvais résultats. C'est la même logique que quand on investit dans des fonds à la bourse qui sont plus risqués, plus on augmente le risque plus une action est risquée, plus on augmente son potentiel de gain, plus on augmente son potentiel de perte. Et gérer son risque, ou du moins augmenter notre capacité au risque. Ça nous permet d'aller chercher ce plus grand range-là, mais aussi, il faut être capable de gérer le potentiel négatif autant que le potentiel positif. Fait que quand on travaille avec les émotions et avec en coaching comme ça, plus cognitif, ben ce qu'on veut faire, c'est justement augmenter cette capacité-là à aller chercher un plus grand gain qui vient avec un plus grand risque. OK? C'est un peu la même logique. Donc, les quatre émotions... une chose que je voulais dire, c'est que éviter ces émotions, ça peut avoir l'air parfois de self-care. Puis ce self-care, c'est parfois, je dis pas toujours, hein, parce que parfois c'est du self-care, puis des fois on n'est pas en mesure, on n'a pas les outils, on n'a pas la capacité de vivre un certain range d'émotions, et c'est correct, tant et sous longtemps qu'on sait où sont nos limites, puis qu'on n'est pas juste esclave de ces limites en pensant qu'elles sont présentes ou qu'on a peur de ressentir certaines choses parce qu'on a un peu peur de nous-mêmes, dans le fond. On a peur de ce qui va se passer dans notre tête après ça. Donc, ce qu'on veut faire attention, c'est que cette idée du self-care tombe pas dans la surprotection qui nous empêcherait de maturer et d'apprendre en nous maintenant dans un état d'activation et d'infantilisation. Parce que puis tu sais, pensez à vos enfants, pensez à... Tu sais, moi, j'ai une fille de 4 ans, puis à quelque part, si j'étais tout le temps en train d'essayer de la protéger des émotions négatives qu'elle pourrait ressentir, elle sera jamais capable de maturer émotionnellement. Puis c'est la même chose dans notre entreprise. On veut maturer émotionnellement parce que maturer émotionnellement va nous permettre de mieux gérer notre risque, prendre des décisions plus stratégiques et aussi suivre notre vision et nos ambitions qui vont nous mener plus loin. Parce que si on n'est pas capable de ancrer ces ambitions-là parce qu'on a trop peur de l'échec ou on a trop peur de la déception, ben là, à ce moment-là, on reste dans un carré de sable qui est quand même assez réduit. Donc, quelles sont ces fameuses émotions? Puis je vais parler des quatre. Puis après ça, je serais intéressée à savoir comment vous les vivez, vous, dans votre entreprise. Ben, c'est, je les ai nommés la déception, la pression, l'impatience et le doute et l'incertitude. Donc, on va parler de chacune d'entre elles et ça serait une bonne idée de réfléchir à comment... une bonne idée. Je vous encourage, si vous voulez, là, pendant que je parle, à réfléchir à comment vous les vivez, comment elles se manifestent chez vous, avec laquelle vous avez le plus de difficultés. Hein? Laquelle, c'est votre talon d'Achille, c'est votre point faible. Hein? Moi, je sais que mon point faible, c'est la déception. Hein? C'est l'émotion que j'ai de la difficulté à vivre et qui va créer le plus de... perturbation émotionnelle. Et donc, c'est intéressant parce que dans mon entreprise, je vais devoir être très consciente quand j'essaye d'éviter la déception ou quand j'essaye d'éviter de la ressentir en gaslightant ma propre expérience ou en pas complètement intégrer l'expérience de la déception et d'aller chercher son apprentissage, d'aller chercher l'intelligence dans cette émotion-là. Donc, la déception, commençons avec elle. Hein. Moi, j'aime commencer avec des définitions. Ici, genre, j'avais trouvé état d'un ou sentiment d'une personne déçue, trompée dans son attente. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de dire, hein, trompée dans son attente. Parce qu'il y a deux choses qui sont vraiment très claires ici dans cette dynamique, c'est qu'il y a une attente. Et cette attente-là, c'est un désir. Et tromper, c'est de réaliser qu'on n'a pas vu la même chose que ce qui s'est déroulé devant nos yeux. Il y a une autre réalité qui s'est concrétisée, qui n'était pas celle qu'on avait dans notre tête. Donc, on a été trompé dans notre désir. On a voulu quelque chose et on croyait qu'on allait l'obtenir et on ne l'a pas obtenu. Puis ça, c'est intéressant de vraiment rationaliser un peu c'est quoi la déception. Parce que si la déception, c'est cette réalité qu'on avait imaginée et qui ne s'est pas produite, ben là, on est dans une confrontation entre deux réalités. On est dans une fantasmagorie. Hein? On avait une image de ce que la réalité devait être et elle nous a déçus, elle s'est pas concrétisée. Mais ce qui est intéressant aussi, hein, c'est que la déception, qu'est-ce qu'elle découvre devant nous, qu'est-ce qu'elle nous fait voir avec encore plus de clarté, c'est notre désir. Parce que quand on commence à réfléchir à ben, « je suis déçue d'avoir eu 10 personnes au lieu de 30 », ben là, on peut commencer à réfléchir « ok, je voulais 30 personnes ». C'était 30 le désir. Mais ce désir, qu'est-ce qu'il cache en arrière? Pourquoi 30? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ah, 30, c'est 100 000 de chiffre d'affaires. Je sais pas, genre n'importe quoi. Ok, intéressant. Fait dans le fond, c'est pas le 30 que tu voulais, c'était le 100 000. OK, mais 100 000, pourquoi tu veux 100 000? C'est quoi vraiment le désir là-dedans? Ben, le désir, c'est que, genre, je veux... avec 100 000, je voudrais... je sais pas moi, être comme tel autre entrepreneur qui a fait 100 000 avec son lancement. OK, donc tu veux appartenir à une classe spéciale. Tu sais, tu veux ressentir le sentiment d'être spécial ou avancé ou peu importe. Fait que là, comme ça, en réfléchissant à cette déception, on découvre la racine du désir. Et ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que la déception, c'est un peu le résidu ou le pendant disempowering de la vision. Ça nous rappelle qu'on n'est pas en contrôle des circonstances et de la réalité. Et ça, ça nous enlève un certain pouvoir parce qu'on a l'impression qu'on est en contrôle jusqu'à ce que quelque chose ne se passe pas comme c'était imaginé. Et là, c'est comme « Oh my God! » Pendant un temps, j'ai cru que tout était sous contrôle, que j'étais en contrôle. Et là, maintenant, la réalité me rappelle que, en fait, non. Et ça, c'est probablement ça qui se passe dans la déception. Hein? Puis si vous êtes déçu d'une personne, c'est la même chose. Hein? On est déçu de nos clients, on est déçu de nos parents, on est déçu de nos amis, on est déçu de nos résultats. Bref, on peut être déçu de plusieurs choses, mais c'est toujours quand on a l'impression qu'on avait un certain contrôle, une certaine vision, et que cette vision s'est pas concrétisée. Et ça, ça nous rappelle que finalement, c'était quoi le contrôle qu'on avait? Mais encore là, on n'a pas complètement perdu le contrôle. On a un contrôle sur certaines choses, c'est juste que la réalité, elle, tu sais, c'est pas nous qui la contrôlons. Donc, je vous prends... Moi, j'avais beaucoup fait de journaling autour de ça parce que c'était arrivé... j'avais réfléchi à la déception après avoir reçu mon premier refus d'une des écoles auxquelles j'avais appliqué pour le doctorat. Et j'avais reçu ce refus par courriel. Et puis, ça donnait que c'était la journée avant que je fasse ma masterclass pour autopoésis. Donc, je voulais rester dans mon monde puis pas me laisser distraire par des émotions négatives. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que parce que je voulais pas vivre la déception, ben là, je compensais, tu sais, j'avais envie de... Moi, je mange émotionnellement, donc c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais tu sais, j'avais envie de manger parce que j'étais pas en train de vivre l'émotion que j'avais besoin de vivre, parce que je voulais la laisser de côté, parce que j'avais pas envie de la gérer. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que à la place, je me suis dit, OK, il faut que je vive cette émotion parce que, obviously, elle est présente. J'ai pas à avoir peur d'elle, j'ai pas à penser que je serais pas capable de la vivre ou que si je la vis, ça va avoir un effet sur ma masterclass. Donc, je me suis laissé un certain espace, puis cet espace-là, c'était dans mes pages quotidiennes que j'écris. J'écris 3 pages dans mon journal le matin. Et je me suis dit, OK, je vais journaler sur la déception. Et là, j'avais écrit ce petit bout que je trouvais intéressant, que j'avais envie de vous lire. La déception est donc le résidu de cette vulnérabilité courageuse qui ose dire « j'y crois ». Je veux et je suis prête à y croire. Et c'est pourquoi c'est si difficile à vivre, car on croit que si on reçoit le non qui nous fait si peur, si on ne voit pas les résultats auxquels on s'attend, alors on se dit qu'on n'aurait pas dû désirer dès le départ. Et que l'ennemi est le désir, et c'est lui qui doit être supprimé à travers notre réalisme cynique qui, au bout du compte, nous maintient dans le confort de la médiocrité et du statu quo. Parce que, en réalité, hein, plus on va avoir des désirs et des projets pour nous, plus on va être confronté à la déception, plus on va être confronté à la réalité, plus on a des rêves qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du statu quo, plus on risque d'être déçu. Et à quelque part, c'est vraiment badass d'être déçu, parce que ça veut dire qu'on s'autorise ce désir. Ça veut dire qu'on s'autorise d'y croire. Ça veut dire qu'on a imaginé quelque chose de beau, quelque chose de désirable, quelque chose qu'on veut voir se concrétiser et qui ne s'est pas encore concrétisé, hein, et sur lequel on a mis beaucoup de care, beaucoup d'intensité, mais qui ne s'est pas concrétisé. Donc, la déception, quand elle est vécue complètement, quand elle est complétée, hein, quand elle passe à travers nous et qu'elle elle est capable d'être intégrée au lieu d'être en réaction traumatique puis de dire « Oh my God, j'aurais jamais dû appliquer au doctorat, tu sais, je veux dire, c'est la fin, genre, de ma carrière académique, exemple. Quand elle est vécue et complétée, c'est une preuve de maturité face à notre désir. C'est une preuve de dire « Ok, est-ce que je veux encore cette chose maintenant que j'ai reçu ce pincement? » Parce que l'affaire, c'est qu'on ne veut pas éteindre le feu de notre désir. On veut s'assurer, au contraire, de le garder bien vivant, bien actif au fond de nous pour qu'il nous guide. Mais notre désir n'est pas celui qui dicte la réalité non plus. On peut aller dans cette direction, on peut poser des actions pour y arriver. Mais il y a quand même une réalité, et cette réalité n'a rien nécessairement à voir avec le désir ou avec le potentiel de ce désir. Donc, comme entrepreneur, comment est-ce qu'on fait pour vivre davantage cette déception, la compléter, la ressentir et quand même continuer à se laisser guider par le feu de notre désir, de notre vision? C'est comme ça qu'on augmente le range de ce qu'on est capable de vivre comme entrepreneur. Maintenant, deuxième émotion, c'est la pression. La pression, comment je le définis, c'est ce qui empêche un système de rester statique. C'est ce qui le pousse vers le changement et le mouvement. Puis j'en ai parlé beaucoup de pression, j'en ai parlé dans un épisode de podcast que je vais vous mettre ici en, dans les show notes. J'en ai parlé aussi sur Instagram, j'en parle beaucoup. Tu sais, c'est quelque chose avec lequel, puis j'en ai parlé dans l'épisode précédent aussi, hein, où on doit apprendre à gérer la pression. Puis il y a certaines pressions économiques, certaines pressions sociales avec lesquelles on n'a pas vraiment le choix. On est dans ce mouvement-là et puis on doit vivre avec. Mais si on n'est pas capable de prendre la pression, surtout comme entrepreneur, qui est un domaine en général assez haute pression parce qu'on augmente le risque sur nous-mêmes, hein, c'est une façon de le voir. Moi, perso, je pense que si on travaille bien en entrepreneuriat, si on sait développer les bonnes attitudes, on réduit le risque sur notre valorisation sur le marché. Mais bon, ça, c'est une autre conversation. Mais en tant qu'entrepreneur, on a choisi la pression. Parce qu'une entreprise sans pression, ça ne fonctionne pas. On doit générer du momentum. Puis pour générer du momentum, on a besoin de la pression. S'il n'y avait pas de pression, ça serait de la diffusion. On serait complètement genre... on flotterait dans l'univers. Puis on ne saurait pas où s'en aller. Et il y a des pressions qui sont négatives, hein, qu'on appelle l'oppression, et d'autres qui sont expansives, comme par exemple de la discipline. La discipline est un type de pression positive. Quand c'est bien utilisé, quand on est capable d'instaurer des routines qui sont soutenantes, quand on est capable, genre, d'utiliser la discipline pour faire, pour accéder à des choses dont on désire pour nous-mêmes, la discipline peut être une pression positive. Et naturellement, qui dit pression dit contraction. Comme on en a parlé dans l'épisode précédent, une récession va créer une pression sur le système économique à travers notamment l'inflation. Et les gens vont ressentir cette pression, vont vendre leurs actions, vont arrêter d'acheter, de consommer, parce que l'inconfort qui vient avec cette pression est trop grand. Et c'est correct. Encore une fois, c'est relié à la gestion et à la capacité à gérer le risque. Chaque personne a une capacité différente, dépendamment de plein de facteurs. Autre type de pression, hein, investir dans notre entreprise. Là, moi, en ce moment, je suis en train d'essayer la publicité. Ça fait 2 mois maintenant qu'on investit là-dedans et on parle de environ 7 à 8 000 $ par mois. C'est énorme. cette pression-là qui est mise dans mon entreprise, c'est de l'argent qui n'est pas disponible pour moi pour faire d'autres choses. En même temps, je suis en train d'investir dans l'équipe. En même temps, je suis en train d'investir dans d'autres choses qui me permettent de faire des tests, qui me permettent d'aller chercher de l'information sur mes prochaines stratégies. Mais investir comme ça dans une entreprise va créer une pression. Avoir plus de clients va créer une pression aussi. Donc, l'important, c'est de déterminer comment on va gérer cette pression, comment on va être capable de garder le cap, sachant que plus la pression est grande, moins de gens vont être capables de vivre avec cette pression. Et c'est un avantage compétitif de pouvoir garder le cap pendant des périodes de haute pression. Puis là, imaginez les Olympiques, hein? Un athlète aux Olympiques doit prendre énormément de pression. Mais c'est pas n'importe qui se rend là. Hein? C'est une poignée d'humains qui sont capables de prendre cette pression et de performer à ce niveau-là avec cette pression-là. Une autre place où la pression est... C'est intéressant de... Tu sais, on dit souvent que les millionnaires se font pendant les récessions parce que alors que les gens vendent leurs actions ou alors que les gens se retirent du marché quand il y a des perturbations qui génèrent trop de pression sur eux, ben ceux qui sont capables de prendre cette pression-là et qui vont investir dans les actions à bas prix ou qui vont être capables de garder le cours de leurs actions, ben souvent, c'est eux qui vont retirer le maximum de gains quand la récession va se terminer. Donc, être capable d'augmenter notre capacité à prendre de la pression dans notre entreprise, c'est une condition pour croître. Et naturellement, ben, tu sais, le risque, quand on est entrepreneur, il est présent partout, hein, puis il est quand même un peu abstrait parfois, mais être capable de le mitiger afin de prendre davantage de risques, c'est une caractéristique essentielle de l'entrepreneur. Aussi, troisième émotion négative, inconfortable, j'ai dit l'impatience. Et ici, encore une fois, notre petite définition, c'est incapacité de se contraindre pour supporter, attendre quelque chose ou quelqu'un. Donc, l'impatience, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça nous pointe vers nos fantasmagories de cause à effet. Si je fais ceci, je devrais avoir cela. C'est très transactionnel, hein, comme vision du monde. Si j'ai fait assez de ceci, je devrais avoir cela. Si j'ai suivi mon plan de contenu pendant 30 jours, je devrais avoir 10 clients qui me payent X nombre d'argent par mois. Et ce qui arrive, c'est que quand cette réalité n'est pas réalisée, ben là, on se dit, ben je devrais déjà l'avoir. Je devrais être rendu là. Je devrais aller plus vite. Je devrais X, Y, Z. Donc, c'est une vision linéaire du monde, hein? Une vision où A plus B égale C. Et encore une fois, c'est lié à une fausse idée de contrôle sur le monde. Mais le monde n'est pas linéaire, l'entrepreneuriat encore moins. Et c'est ici qu'il faut réfléchir quand on se sent impatiente de voir où sont mes conceptions linéaires de l'entreprise. Où sont mes conceptions linéaires du succès? Parce que dans cette conception linéaire, je ne vois pas les autres types d'opportunités ou je ne vois pas le progrès qui est en train de se mettre en place et je ne suis pas capable de discerner qu'est-ce qui est une bonne action d'une mauvaise action parce que je suis tellement focalisée sur atteindre un résultat X que je ne suis probablement pas en train de mettre en place les bons systèmes dans mon entreprise. Donc, l'impatience nous ouvre la réflexion sur notre discernement à savoir qu'est-ce qui permet de bouger l'aiguille et qu'est-ce qui est une énergie mal investie. Dealer avec l'impatience, c'est d'identifier où sont nos fausses conceptions à propos du monde et de son fonctionnement. Et ça nous amène aussi à questionner où on cherche de la validation. Parce que si on est impatient, c'est qu'il nous manque quelque chose pour se sentir d'une certaine façon. Hein? Je suis impatiente, mettons, quand je vois que à la place de faire $1 million en une année, je l'ai fait en 3 ans. J'aurais voulu le faire en une année. Et là, genre, en focalisant sur ça, ben, je m'empêche de voir, mais qu'est-ce que je fais en ce moment dans mon entreprise qui, tu sais, peut-être c'est le rythme de mon entreprise, mais peut-être qu'il y a des choses que je ne vois pas que je pourrais être en train de faire, ou peut-être que c'est un objectif complètement, genre, abstrait et random, puis que ça me sert à quoi, genre, d'avoir cet objectif-là, autre que de me valider dans, tu sais, dans une conception que je veux avoir de moi-même. Donc, c'est intéressant quand on se sent impatient de voir, ben, c'est quoi que je crois sur le monde, sur ce que j'ai fait, sur les efforts que j'ai mis, qu'est-ce que je m'attends à recevoir et pourquoi je m'attends à recevoir ces choses-là, et où est-ce que je vois pas la réalité de ce que j'ai mis en place, ou où est-ce que je pense que j'ai un contrôle que je n'ai pas, etc., etc. Puis finalement, on a le doute slash l'incertitude, je les ai mis ensemble. Puis là, ici, bon, je trouvais que la définition était un peu pas tant utile dans le sens état de quelqu'un qui ne sait quelle partie prendre ou état plus ou moins préoccupant de quelqu'un qui est dans l'attente d'une chose incertaine. Donc, il y a cette notion ici d'attendre, hein, qui est liée un peu à l'impatience, cette notion de chose incertaine qui est liée à notre contrôle sur le monde. Souvent, quand on est dans le doute ou l'incertitude, on se sent inconfortable parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien de solide sous nos pieds, hein, qu'on n'est pas capable d'avancer selon une ligne vraiment définie, on ne se sent pas nécessairement ancré, on se sent dans cette espèce de flux qui est beaucoup plus chaotique que ce qu'on aimerait ressentir. Encore une fois, c'est lié à notre besoin de contrôle. Et ce que je trouve intéressant quand on ressent du doute et de l'incertitude, c'est que ça nous amène à, faire la paix avec la nature fluide de l'entrepreneuriat. Et donc, il n'y a pas de ABC, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de, tu sais. Mais aussi de nous rappeler que, ultimement, notre safe space, c'est un état interne et les ancrages qu'on cherche, c'est un état interne qui vont nous rappeler comment naviguer les flots. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup utiliser les métaphores de l'océan ou de l'espace. Si vous êtes dans mon programme Money Brand, tout est brandé comme on est dans une exploration spatiale, il y a des vaisseaux spatiaux, genre des vaisseaux spatiaux, parce que on navigue un espace qui n'est pas défini. Hein? On doit accepter le fait que cet espace qu'on navigue est pas, il n'y a pas de terre sous nos pieds, c'est pas solide, c'est pas comme une montagne puis on sait genre que le sommet est à quelque part. Non, on est dans une constante exploration et il faut faire la paix avec cet état fluide des choses, cet état chrysalide, un état où rien n'est complètement déterminé, où il n'y a pas de bon ou de mauvaise décision, où il n'y a pas un avant puis un arrière, il n'y a pas un avancé puis un débutant, il n'y a pas cette linéarité qui serait tellement, qui nous rassurait, qui serait tellement rassurante, mais plutôt ce grand espace intersidéral à travers lequel on doit trouver un ancrage interne si on ne veut pas complètement capoter. Donc le doute et l'incertitude sont des signes qu'on est connecté avec cet espace-là et qu'on peut le voir comme quelque chose d'angoissant, d'anxiolytique, mais ça peut aussi être l'espace des opportunités infinies. Le doute et l'incertitude peuvent être des tremplins pour connecter à l'abondance et à la liberté qu'on recherche comme entrepreneur. Donc ça, c'est le pendant, genre... Le pendant positif, je trouve, qui est de connecter avec cette partie-là de la nature entrepreneuriale et d'être capable de trouver une paix interne pour pouvoir naviguer avec le doute et l'incertitude. Puis, tu sais, c'est intéressant de penser à ces quatre sensations, hein, déception, pression, impatience, doute et incertitude, dans n'importe quel événement de notre entreprise. T'sais, si on prend par exemple un lancement, on va vivre toutes ces émotions. Et donc, savoir régulariser notre système nerveux autour d'un lancement, c'est de travailler à accueillir ces émotions sans les nier, sans leur faire prendre toute la place, en étant capable de les process, d'aller chercher leur intelligence et ensuite de prendre des décisions qui vont être stratégiques, qui vont être réfléchies, qui vont être qui vont pas être traumatiques en gros. Parce que l'expansion, la croissance, c'est d'augmenter le range de ce qu'on est capable d'accueillir comme sensation et d'activer notre intelligence entrepreneuriale à tous les niveaux en ne inhibant pas l'apprentissage qu'on va faire à travers chacune de ces expériences. Donc, ces quatre émotions positives, émotions positives, négatives, hein, si elles sont présentes dans notre expérience entrepreneuriale, c'est bon signe parce que c'est des opportunités pour nous de croître notre capacité. Alors voilà ce que j'avais pour vous. Je serais vraiment intéressée à savoir comment ça a résonné. C'était un épisode un peu plus, disons, abstrait ou, je sais pas comment dire, là, t'sais, mental un peu. Mais je pense que c'est important d'en parler parce que souvent on va parler de mindset et ça va être un peu vague, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Mais ça, c'est vraiment 100% du mindset qu'on doit travailler. Puis quand on parle de mindset, c'est aussi cette régularisation-là autour de notre capacité émotionnelle. All right, tout le monde. J'espère que ça vous a plu et vous savez où me trouver. Laissez-moi savoir comment ça a résonné pour vous et je vous souhaite une super belle journée. À bientôt! Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcasts, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple, navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.